D'abord, Monseigneur Robert était presque toujours debout. Sans arrêt, il arpentait son cabinet entre les hautes figures de saints. Maître Tesson ne pouvait décemment s'asseoir en présence de si grands personnages qu'un pair de France. Or, les notaires ont l'habitude de travailler assis. Maître Tesson peinait donc à soutenir son sac de cuir noir qu'il n'osait poser sur les brocarts et dont il extrayait les pièces l'une après l'autre. Il redoutait d'achever ce procès avec un mal de rein pour la vie. « J'ai vu, » dit-il, répondant à la question de Robert, « l'ancien bailli Guillaume de la Planche, qui est présentement détenu au Châtelet. La dame de Divion était allée le visiter auparavant. Il a bien témoigné comme nous l'attendions. Il demande que vous n'oubliez point de parler à messire Mitz de Noyer pour sa grâce, car son affaire est mauvaise et il risque fort d'être pendu. Je veillerai à ce qu'on le relâche, qu'il dorme tranquille. Et Simon Dourier, l'avez-vous entendu ?»«
Je ne l'ai pas entendu encore, monseigneur, mais je l'ai approché. Il est prêt à déclarer par devant les commissaires qu'il était présent le jour de 1302 où le comte Robert II, votre grand-père, peu avant de défunter, dicta la lettre qui confirmait votre droit à l'héritage d'Artois. »«
Ah, fort bien, fort bien. » »«
Je lui ai promis aussi qu'il serait repris dans votre hôtel et pensionné par vous. »
Pourquoi en avait-il été chassé ? Demanda Robert.
Le notaire esquissa le geste courbe de quelqu'un qui met de l'argent dans sa poche.
Bah ! S'écria Robert. Il est vieux à présent. Il a eu le temps de se repentir. Je lui donnerai 100 livres l'an, le logement et les draps.
Magné de Lannoy confirmera que les lettres soustraites furent brûlées par Madame Mao. Sa maison, comme vous le savez, allait être vendue pour payer ses dettes aux Lombards. Il vous a grande grâce de lui avoir conservé un toit.
« Je suis bon. Cela ne se sait pas assez, » dit Robert. « Mais vous ne m'apprenez rien sur Juvigny, l'ancien valet d'Enguerrand. »
Le notaire baissa le nez d'un air coupable.
« Je n'en obtiens rien, » dit-il. « Il refuse, il prétend qu'il ne sait pas, qu'il ne se souvient plus.
Comment ?» s'écria Robert. « Je suis allé moi-même au Louvre, où il est pensionné pour faire bien peu. Je lui ai parlé et il s'obstine à ne pas se souvenir. » « Voyez donc si on ne peut pas le mettre un peu à la question. La vue des tenailles l'aidera peut-être à dire la vérité. »«
Monseigneur, » répondit le notaire tristement, « on tourmente les prévenus, mais pas encore les témoins. »«
Alors apprenez-lui que si la mémoire ne lui revient pas, ses gages seront supprimés. Je suis bon, encore faut-il qu'on m'y aide. »
Il saisit un chandelier de bronze qui pesait bien 15 livres et le fit sauter tout en marchant d'une main dans l'autre. Le notaire pensa à l'injustice divine qui accorde tant de force musculaire à des gens qui ne l'emploient que pour s'amuser, et si peu aux pauvres notaires qui ont leur lourd sac de cuir noir à porter.
« Ne craignez-vous pas, monseigneur, si vous supprimez à Juvigny ses gages, qu'il ne puisse les retrouver de la main de la comtesse Mao ?»
Robert s'arrêta.
« Mao ! » s'écria-t-il. « Mais elle ne peut plus rien ! Elle se terre, elle a peur ! L'a-t-on vu à la cour ces temps-ci ? Elle ne bouge plus, elle tremble. Elle sait qu'elle est perdue. »
« Dieu vous entende, monseigneur. Dieu vous entende. Certes, nous gagnerons, mais cela n'ira pas encore sans quelques petites traverses. »
Tesson hésitait à continuer, non tant par crainte de ce qu'il avait à dire qu'à cause du poids du sac. Encore 5 ou 10 minutes à rester debout.
« J'ai été avisé, » reprit-il, « que nos gens d'enquête sont suivis en Artois. » Et nos témoins visités par d'autres que par nous. En outre, ces temps-ci, il y a eu un certain va-et-vient de messagers entre l'hôtel de Madame Mao et Dijon. On a vu sa porte passer par divers chevaucheurs à la livrée de Bourgogne.
Mao cherchait à resserrer ses liens avec le duc Eudes, c'était chose bien claire. Or, le parti de Bourgogne disposait à la cour de l'appui de la reine.
« Oui, mais moi, j'ai le roi !» dit Robert. « La gueuse perdra Tesson, je vous l'affirme. »
« Il faudra quand même produire les pièces, monseigneur, parce que sans ces pièces... »«
Ah, des dires, on peut toujours opposer d'autres dires. Le plus tôt sera le mieux. »
Il avait de personnelles raisons pour insister, à inspirer tant de témoignages, voire à les extorquer par achat ou menace. Un notaire peut faire fortune, mais il risque aussi le Châtelet et même la roue. Tesson ne souhaitait guère prendre la place de l'ancien bailli de Béthune.
« Elles viennent, vos pièces, elles viennent, elles arrivent, je vous ai dit. Croyez-vous que ce soit si facile de les obtenir ? À propos, Tesson, »
dit soudain Robert en désignant de l'index le sac de cuir noir.
Vous avez noté dans le témoignage du comte de Bouville que le traité de mariage avait été scellé par les 12 pairs. Pourquoi avez-vous noté cela ?
Parce que le témoin l'a dit, monseigneur.
Ah oui, c'est très important, dit Robert songeur.
Pourquoi donc, monseigneur ?
Pourquoi ? Parce que j'attends l'autre copie du traité, celle des registres d'Artois, qui doit m'être remise, et pour fort cher d'ailleurs, si les noms des 12 pairs n'y figuraient pas, la pièce ne serait point bonne.
Quels étaient les pairs en ce temps-là ?
Pour les ducs et comtes, c'est chose facile, mais les pairs d'église, qui étaient-ils ?
Voyez comme il faut être attentif à tout.
Le notaire regarda Robert avec un mélange d'inquiétude et d'admiration.
Savez-vous, monseigneur, que si vous n'aviez pas été si grand sire, vous eussiez fait le meilleur notaire qui soit au royaume. Sans offense, je dis cela sans offense, monseigneur.
Robert sonna pour qu'on raccompagnât son visiteur. À peine le notaire se fut-il retiré que Robert sortit par une petite porte ménagée entre les hanches de la Madeleine, un jeu de décoration qui l'amusait fort, et courut à la chambre de son épouse. En ayant chassé les dames de parage, il dit
« Jeanne, ma bonne amie, ma chère comtesse, faites savoir à la Divion d'interrompre l'écriture du traité de mariage. Il y faut le nom des 12 pairs de l'an 82, les savez-vous ? Eh bien, moi non plus. Où peut-on se les procurer sans donner l'éveil ? Ah, que de temps perdu ! Que de temps perdu ! »
La comtesse de Beaumont, de ses beaux yeux bleus limpides, contemplait son mari. Un vague sourire éclairait son visage. Son géant avait encore trouvé quelques motifs d'agitation. Très calmement, elle dit « À Saint-Denis, mon doux époux, à Saint-Denis, au registre de l'abbaye. Nous y relèverons sûrement les noms des pères. Je vais y envoyer frère Henri, mon confesseur, comme s'il voulait faire quelques recherches savantes. »
Une expression de tendresse amusée, de gratitude joyeuse, passa sur le large visage de Robert. « Savez-vous, mamie, dit-il en s'inclinant avec une grâce pesante, que si vous n'étiez pas si haute dame, vous eussiez fait le meilleur notaire du royaume. »
Ils se sourirent, et dans les yeux de Robert, la comtesse de Beaumont, née Jeanne de Valois, lut la promesse qu'il visiterait son lit le soir.